Le coup de boost, l'émission de la gestion immobilière digitale, coproduite par Vilogy sur Radio Immo.
Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Immo. C'est un plaisir de vous retrouver pour ce coup de boost de l'été, une émission qui parle de gestion immobilière digitale. Et je suis évidemment avec Samuel et Saka Ekedi. Bonjour.
Bonjour Bérénice, et une joie partagée de
te retrouver. Oui, vous êtes en pleine forme, Samuel.
Alors,
c'est une émission donc proposée par Vilogy. Vous êtes le directeur du développement de Vilogy. Pouvez-vous nous présenter Vilogy pour nos auditeurs qui ne vous connaissent pas encore?
Oui, avec plaisir, très rapidement. Vilogy est un éditeur d'une plateforme collaborative avec des logiciels métiers de gestion. Nous en faisons deux. Un pour la gestion de copropriété, un pour la gestion locative. Et nous accompagnons ça avec des services pour accompagner dans la comptabilité. Et nous essayons de mettre en place un maximum de synergies digitales possibles avec des autres partenaires tels que Bridge, on est en train de mettre Edilink, on discute avec Apimo, etc. L'idée, c'est de contribuer à ce que j'appellerais l'écosystème digital intégré pour ce métier-là. Voilà.
Alors aujourd'hui, en plateau, non pas un, mais deux invités. Henri Buzicazo, bonjour, président de l'IMSI, l'Institut du Management des Services Immobiliers. Et Jérôme Revy, bonjour.
Bonjour Bérénice.
Organisateur du Salon Rent, mais également investisseur chez NCI, qui est spécialisé dans la PropTech.
Absolument.
Et ça tombe bien, puisque le sujet du jour est le levier de la tech pour la crise immobilière. Alors Samuel, on va peut-être faire un petit point, on évoque la crise immobilière, on va peut-être faire un petit point avec Henri, justement, sur la conjoncture du secteur.
Il y a deux choses à dire. Les deux grands métiers, la transaction et l'administration de biens, connaissent aujourd'hui deux grands défis. S'agissant de l'administration de biens, que ce soit la gestion locative, la gestion de copropriété, Samuel a cité ces deux activités, il en est un partenaire avec Vilogy. S'agissant de ces activités-là, c'est la transition environnementale qui est vraiment l'enjeu. Bon. C'est comment on fait en sorte que le patrimoine collectif, les logements détenus par les investisseurs se réforment techniquement deviennent vertueux au plan environnemental. C'est vraiment la difficulté rencontrée par les professionnels. Ça veut dire qu'il faut un lien épaissi avec les investisseurs, les copropriétaires, pour que le dialogue, l'information passe mieux et pour que ces propriétaires et copropriétaires prennent les bonnes décisions, qu'ils se sentent accompagnés par l'administrateur de biens. Jamais il n'y a eu cette nécessité d'un lien aussi fort. Il faut une vraie complicité entre
un besoin d'accompagnement même.
Un besoin d'accompagnement et vraiment un lien commercial extrêmement fort. À cet égard, mais on en parlera bien sûr en particulier avec Jérôme qui est un spécialiste, mais naturellement la tech est une façon d'avoir ce lien extrêmement fort. Et puis il y a la transaction. Il faut dire la vérité, vous savez que je m'y emploie, qu'elle soit heureuse ou moins heureuse. Hein,
c'est vrai
vérité.
Que vous êtes franc.
Oui, je suis franc et très clairement aujourd'hui, le marché de la transaction résidentielle, il a perdu, allez, on va dire, un tiers de son souffle. Un tiers.
Pour le premier semestre 2023.
Voilà, le premier semestre est déjà derrière nous. Et on sait que c'est 30, 35, 40% selon les acteurs de chiffre d'affaires en moins, c'est-à-dire de volume d'activité en moins. Dans ce contexte-là, la difficulté aujourd'hui, c'est tout à la fois d'ailleurs d'obtenir des mandats de vente, parce que les vendeurs, ben, ils sentent que le marché ne leur est pas favorable, donc certains se retiennent.
Il y a beaucoup d'attentisme.
Ouais. Voilà, donc il y a de l'attentisme. Il faut, lorsqu'on a ces mandats en main, trouver les acquéreurs et faire en sorte qu'ils soient solvables. Le métier, évidemment, se réforme. Ça signifie aussi retrouver, d'ailleurs, alors là je le dis très clairement, les grands patrons de réseau le reconnaissent, retrouver les fondamentaux, comme on dit au rugby, hein, c'est-à-dire que est-ce qu'on accompagnait les clients comme il fallait, est-ce qu'on savait utiliser les datas comme il fallait, quand on a vendu un logement à quelqu'un il y a 5, 6 ou 7 ans, est-ce qu'il ne faudrait pas revenir vers lui ou vers elle, bon, est-ce qu'on fait le suivi nécessaire. On va avoir aujourd'hui une réforme des pratiques professionnelles, elle est en cours, on va retrouver des réflexes de confraternité, de solidarité, d'innovation, on va sûrement se dire quand on fait les trois grands métiers, Bah, peut-être qu'il faut que je les fasse raisonner ensemble, ces métiers. J'ai peut-être des infos sur le premier qui vont servir le deuxième. Voilà. Donc, une période difficile. Mais quand on se dit que c'est difficile, c'est pas pour pleurer, c'est pour trouver des solutions. Sûrement recourir mieux au digital et à la tech, c'est évidemment une voie.
Alors Jérôme, vous vouliez intervenir.
Oui, en fait, comme tu le disais très bien, je pense qu'il y a trois crises en réalité, et pas qu'une seule. Il y a trois crises latentes. Il y a d'abord une crise du pouvoir d'achat, qui est d'abord une crise sociétale avant tout. Une des conséquences de ça, c'est une crise de la tech. Et on verra pourquoi. La tech aujourd'hui a beaucoup de mal à se faire financer sur les marchés, en particulier en France, mais c'est le cas aux États-Unis depuis un peu plus longtemps. Et une troisième crise qui vient s'ajouter à ça, qui n'aide pas, tu l'as évoqué tout à l'heure, c'est la crise environnementale, qui du coup vient impacter le secteur avec un besoin fort d'innovation sur un marché qui est quand même un marché très traditionnel. Et ces trois crises, je dirais en une même période, c'est quand même quelque chose, me semble-t-il, d'assez rare sur une période telle que nous la connaissons aujourd'hui.
Et ce que vous disiez tout à l'heure, c'est très vrai aussi, les patrons de réseau le disent beaucoup. Il y a un point d'équilibre qui n'est pas trouvé aussi entre les vendeurs et les acquéreurs. Hein. C'est-à-dire que les vendeurs ne veulent pas baisser le prix quand ils veulent vendre, hein, parce qu'il y en a beaucoup qui attendent, et les acquéreurs attendent que les prix baissent.
Sur le marché de la revente, hein, de l'ancien, de l'existant, il faudrait dire, la question de l'ajustement des prix, elle est déterminante. Les acquéreurs ont perdu 25% de pouvoir d'achat logement avec l'augmentation des taux d'intérêt.
25% autant,
oui. Ouais. Et voire plus, puisque les taux d'intérêt vont encore augmenter de 25 points de base là, dans les jours qui viennent. Cette tendance, elle n'est pas encore enrayée. On va connaître sûrement à la rentrée encore des augmentations. Donc oui, c'est entre 25 et 30% de pouvoir d'achat. Si les prix ne redonnent pas une partie de cet oxygène perdu aux acquéreurs, les volumes resteront à un niveau bas, je l'ai dit, de moins de 30, moins de 35, moins de 40% de nombre de ventes. Or, on a besoin de faire ces ventes ou de faire ces acquisitions. Je le rappelle, hein, les ménages, ils achètent ou ils vendent pour des événements de la vie qui s'imposent à eux, heureux ou malheureux, naissance, décès, un couple qui se forme ou qui se sépare, et la mobilité professionnelle. Ça, c'est 9 opérations sur 10. Donc, il faut que ça se fasse. On ne peut pas différer d'un an un changement de logement quand il s'impose. Voilà, donc les prix, ça va être une variable d'ajustement. Dans le neuf, on en dit, disons un petit mot quand même sur nos amis promoteurs aux constructions de maisons individuelles, la logique n'est pas la même, puisque l'augmentation du coût des matériaux a conduit à l'augmentation du coût des logements. Les acteurs ont rogné sur leurs marges, ils font des gros efforts, ils font des promotions, on le voit, et on peut aujourd'hui d'ailleurs faire des bonnes affaires en acquérant du neuf, mais là encore, c'est en recourant au crédit. Et le crédit, aujourd'hui, n'est pas à la portée de tous les ménages, bien sûr.
Alors Jérôme, vous évoquiez les investissements dans la PropTech. Alors c'est vrai que moi, j'ai vu qu'on notait pas une baisse du nombre de levées de fonds, mais elles sont moins élevées, ces levées de fonds.
Oui, une baisse du volume d'investissement réalisé, alors qui s'explique assez facilement. D'abord parce que les valorisations des entreprises ont baissé. Il y a un lien direct entre l'augmentation des taux directeurs des banques centrales et la baisse des valorisations des entreprises. Ça a une incidence directe sur la façon dont les entreprises lèvent l'argent aujourd'hui sur les marchés. L'argent est disponible puisqu'il a été collecté auprès d'investisseurs depuis quelques mois, quelques années. Donc il existe. Simplement aujourd'hui, il est finalement très peu dépensé parce que les valorisations proposées par les startups sont excessives. Donc on a une situation de blocage, en particulier dans des startups qui ont levé de l'argent précédemment à des valorisations excessives. Correction des valorisations, on ne peut plus investir dans ces entreprises. Donc c'est des entreprises qui ne seront pas financées et donc qui vont se retrouver du jour au lendemain, très probablement, devoir licencier. On l'a déjà vu, il y a déjà beaucoup de startups qui ont licencié. Donc c'est une bonne et une mauvaise nouvelle. Une bonne nouvelle, pourquoi ? Parce qu'une correction des valorisations, c'est toujours une bonne nouvelle. C'est comme la correction des prix de marché de l'immobilier, c'est toujours une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'on a acheté trop cher il y a quelques années, quelques mois. C'est aussi une mauvaise nouvelle parce que, quelque part, ce sont des innovations qui peuvent disparaître, qui risquent de disparaître. Et ces innovations, le secteur de l'immobilier, il en a besoin. Il en a besoin dans le métier de la gestion de copropriété, dans le métier de la gestion locative, les solutions qui vont aider à rénover les passoires énergétiques, etc. Donc, on a besoin de ces innovations-là. et il faut quand même pouvoir les financer à des prix raisonnables. Et c'est ça le sujet aujourd'hui.
Alors quand vous dites que l'argent est là, il y a quand même moins d'argent, il y a moins de liquidités. Il faut quand même le dire.
Non, c'est pas exact en fait.
Par rapport à il y a deux
y
ans,
a de l'argent,
il y a quand même moins d'argent en circulation.
C'est pas tout à fait exact. En fait, les fonds qui investissent leur argent ont des périodes d'investissement de 10 ans. Ils ont levé l'argent il y a plusieurs mois, plusieurs années. Donc l'argent, ils l'ont. Ils ont un mandat pour investir, mais ils attendent.
Parce qu'il y en a moins qui rentrent actuellement.
Non, ils attendent simplement par des effets de correction de valorisation. Et ils attendent que le secteur se stabilise. Dans la PropTech, clairement, si les agences immobilières continuent à fermer leurs portes, je ne vois pas un fonds d'investissement investir dans une solution tech à destination des agents immobiliers aujourd'hui. Regardons ce qui se passe dans la promotion immobilière. Il y a beaucoup de startups qui sont à la vente, qui proposaient des solutions pour les promoteurs immobiliers. Voilà, indirectement, c'est une des conséquences. L'argent est disponible, mais il n'est pas investi dans ces entreprises-là. C'est ce que je veux dire.
Hein. Deux choses, Bernie, si vous permettez, en contrepoint de ce que dit, ou en complément de ce que dit Jérôme, l'administration de biens. C'est le sous-jacent hein, de Vilogie. D'abord, à cette solidité qui aujourd'hui est une planche de salut pour beaucoup d'entreprises qui font de la transaction et de la gestion. La gestion leur permet d'avoir cette solidité. Mmh. Et de grands acteurs ont incité ceux qui font de la transaction à se diversifier vers la gestion. Ils l'ont fait avec succès. Century 21, bien Orpi, sûr. Pour citer de grands réseaux, mais tous les autres. Et les éditeurs eux-mêmes ont incité à avoir ce deuxième pied, cette deuxième jambe solide. Et deuxièmement, dans cet univers de la tech, dont je ne suis pas un spécialiste, Jérôme l'est, on va dire qu'il y a, pour simplifier, il y a deux grands acteurs. Il y a les start-up qui sont apparues, qui pour certaines ne le sont plus, je crois que au bout de 10 ans, on n'est plus start-up. Les entreprises innovantes, on va dire. Qui sont les exposants du salon Rent depuis l'origine, qui aujourd'hui, pour certaines de ces entreprises, souffrent, voire n'ont plus le financement qu'elles souhaitaient, sont obligées de replier la voilure. Et puis, il y a les éditeurs qui accompagnent le secteur de la transaction de l'administration de biens depuis longtemps et qui sont des entreprises d'une autre nature avec une solidité supérieure. Parce qu'elles ont l'ancienneté, elles ont une capitalisation plus importante. Vilogie en fait partie. Alors, les entreprises qui peuvent être à l'origine familiale d'ailleurs ou artisanale, mais qui ont leur assise. Et ces entreprises-là, on les a peut-être un peu méprisées en oubliant qu'elles innovaient aussi. Elles ne se sont pas endormies. Hein, voilà. On peut en citer 4 ou 5, elles ne sont pas nombreuses. Hein, c'est un petit monde hein, dans lequel Vilogie est inscrit, mais elles sont là. Et soit elles ont regardé des startups, elles les ont d'ailleurs associées à leur projet. Elles se sont pluguées, je ne sais pas comment il faut dire. Elles ont permis la communication entre leurs solutions. Soit elles ont elles-mêmes innové de manière interne. Mais ces éditeurs, ils sont au rendez-vous de l'histoire aujourd'hui. Voilà.
Et pour vous, est-ce que certaines startups étaient, on peut dire, un effet de mode ?
Sans
elles ont surfé sur les deux belles années.
J'irai pas jusqu'à dire ça. Là, Jérôme est beaucoup plus autorisé que moi pour analyser. Je pense, oui, la mode a pu conduire certaines entreprises sans véritable modèle, sans véritable métier à apparaître. Ça, c'est vrai dans l'entreprise en général. Et celles-là, elles sont fragiles, elles sont déjà parties ou malheureusement elles partiront. Mais non, sans parler de mode, il y a eu de l'innovation. Il y a eu des problèmes de gestion. Quand on a beaucoup d'argent, on l'utilise. Souvent, les investisseurs ont été poussés au crime. Et puis, à un moment donné, les investisseurs vous disent, attendez, reprenez-vous. Donc, il faut replier les effectifs. C'est pas rigolo. Il faut faire moins de publicité. Non, il y a des belles innovations qui vont continuer avec moins de moyens. Et malheureusement, Jérôme l'a dit, des innovations qu'on voudrait voir continuer à exercer leur talent et qui vont pas rester. Mais c'est le problème de gestion d'entreprise.
Samuel, alors, concernant Vilogie, justement. Alors,
si je peux répondre, il y a beaucoup de sujets intéressants à la fois pour Vilogie et pour le métier. Si je reprends ce que Henri venait juste de dire pour rigoler, je dirais que si je fais une analogie entre une start-up pure et une entreprise innovante qui est bien installée, je dirais que c'est comme si, d'un côté, vous aviez la recherche fondamentale et la recherche appliquée. D'accord, la recherche fondamentale, elle arrive souvent avec des solutions très innovantes. Et souvent, il n'y a pas de marché pour l'instant. Mais ça ne veut pas dire que ça ne répond pas à un problème. La difficulté qu'on a souvent eue avec les startups, et c'est tout le challenge de Jérôme, hein, qui doit juger les entreprises, c'est qu'on peut très bien résoudre un problème, sauf qu'il n'y a pas de marché pour ce problème-là. Et souvent, il faut bien qu'ils se prononcent. Et c'est une des difficultés qu'ont connues certaines entreprises du secteur. pour revenir à ce que je clarifiais, j'appelais recherche appliquée, tout ce qui vient d'être dit là, que ce soit par Henri ou pas Jérôme, c'est des choses auxquelles, en tant qu'éditeur de logiciels, on doit apporter des réponses opérationnelles. Je rajouterai à une partie de la crise quelque chose qui a peut-être pas été évoqué, c'est comment je garde mes ressources aujourd'hui. Parce que les ressources aussi, ils ont envie de travailler dans des environnements qui sont bien, avec des produits innovants. C'est tout ça ensemble. Henri a parlé de data. On a fait, il y a quelques temps, je crois que c'était au Rennes dernier, on a déjà parlé de ce sujet-là, que Jérôme connaît très bien. Comment on fait pour que, avec le portefeuille des administrateurs de biens, comment on fait pour générer des transactions, comment on fait pour qu'ils puissent gagner encore plus d'argent avec ce portefeuille-là. Il y a plusieurs leviers. Il y a bien évidemment exploiter en tant que client l'accompagnement, il en a parlé, quelqu'un est rentré aujourd'hui, qu'est-ce qu'il devient demain, où est-ce qu'il en est, etc., etc. Mais il y a aussi des solutions sur lesquelles nous sommes en train de travailler, permettre que je suis quelque part, qu'est-ce qui se passe autour de moi, est-ce que j'ai encore d'autres opportunités qui sont beaucoup plus opérationnelles, parce que je connais déjà le quartier. C'est toutes ces choses-là qu'on essaye de faire, et surtout une chose importante, on en parlera peut-être tout à l'heure, c'est la synergie entre les acteurs. Il fut un temps où, surtout chez nous les éditeurs, il y avait des éditeurs qui avaient plein pignon sur eux, qui avaient la moitié du marché et qui s'ouvraient à personne. Aujourd'hui, la vitesse des innovations et des moyens que ça nécessite fait que, par exemple, pour Vilogy, pour un certain nombre de solutions, on plug directement de l'extérieur. On a fait ça avec Clipa, on est en train de faire ça avec Bridge, on fait ça avec Edilink. On va bientôt, j'espère, entamer des discussions avec Apimo qui nous a déjà envoyé des trucs. On est obligé de fournir la technologie, fournir à nos clients, dans cette période-là, des solutions les plus fluides possibles pour que, ils puissent résister déjà avec ce qu'ils ont et qu'ils se préparent pour demain. Parce qu'à un moment ou à un autre, comme on dit chez nous, quelle que soit la durée de la nuit, à un moment donné, il y aura quand même le jour.
Donc, c'est au-delà d'un accompagnement, c'est un soutien, en fait.
C'est un soutien pour qu'ils fassent du business et pour qu'ils soient encore plus forts. Enfin, une vraie crise, c'est celle qui vous permet de sortir plus fort. Sinon, vous n'avez rien appris. Donc, nous, on les accompagne avec cette technologie.
De toute façon, une crise, soit on en sort plus fort, soit on n'en sort pas. Jérôme,
On va fêter cette année les 10 ans du Salon Rent. Et en 10 ans, quand on regarde, on prend un petit peu de recul, ce dont on se rend compte, c'est que beaucoup de solutions apportées par des startups n'ont pas trouvé de marché, comme tu le disais tout à l'heure, ou pas suffisamment, ou pas suffisamment gros volume. Et pour moi, il y a une part de responsabilité des éditeurs de logiciels, parce que en fait, ces startups mettaient le doigt sur un problème, ce qu'on appelle un pain point dans le métier, qui est tout à fait avéré, et pour lequel il aurait été bien sur le parcours client d'associer le bailleur avec le locataire ou le résident, je ne sais quoi. Et pour autant, ces solutions n'ont pas vraiment trouvé de preneur parce que le marché est complexe, etc. Et il est complexe pourquoi ? Parce que en fait, au milieu de ce marché-là, on a un éditeur de logiciels et jusqu'à très récemment, les éditeurs de logiciels regardaient les innovations, se disaient qu'ils pouvaient eux-mêmes le faire et donc les partenariats avec les startups, ils acceptaient de le faire, mais il y avait tellement de startups qu'ils ne pouvaient pas faire un partenariat avec toutes les startups. Donc, ils l'ont fait un peu avec parcimonie, sans doute pas assez. Ils voulaient probablement racheter des startups, mais les startups étaient trop valorisées. Donc, il y a eu un petit blocage, je l'identifierais comme ça, qui n'a pas été profitable à la profession. Et j'observe que depuis quelques années, je pense y avoir un peu contribué, on assiste à un retour des éditeurs de logiciels qui ont vraiment pris conscience de l'importance de la data, mais aussi de l'ouverture des logiciels. Et ça a permis de décloisonner un certain nombre de sujets. Je prends quelques exemples. La start-up Whitebird, qui est un syndic innovant qui propose notamment un modèle de mandataire. Ils ont mis en place un certain nombre d'automatisations sur la data, sur les process du syndic qui sont relativement pénibles, les process comptables, etc. Parce qu'ils ont réussi à, quelque part, à s'extraire du logiciel. Ils ne sont pas liés directement au logiciel, mais ils ont réussi à développer des outils en lien avec le logiciel. Et grâce à ça, ça a permis l'évolution de quelque chose qui pourrait être souhaitable pour la profession. Et c'est le cas dans la gestion locative. Pour dire, le parcours locataire aujourd'hui, aujourd'hui, qui est quand même un parcours un peu pénible, dans lequel vous devez donner un certain nombre de justificatifs, faire des visites, etc. Eh bien, il y a des acteurs comme BC, qui viennent de Verlingue, qui ont mis en place des parcours locataires avec des plateformes qui permettent d'associer à la fois la visite du bien, la collecte des pièces, la vérification automatisée, l'attribution d'une sorte de passe, etc.
Et l'intelligence artificielle pour apprécier le risque locatif.
Et l'intelligence, exactement. Et ça, c'était pas possible il y a 10 ans. Mais cette collaboration entre les startups et les professionnels, elle a été permise notamment parce que les éditeurs de logiciels ont réussi, ont compris qu'il fallait s'ouvrir. Et ça, je l'observe, y compris chez des éditeurs assez traditionnels comme ICS, qui maintenant ont une vraie culture d'innovation. Ce qui était peut-être moins le cas il y a quelques années, parce que d'abord, peut-être, c'est une question de génération aussi. Et puis, on m'avait toujours dit que dans le métier de l'administration de biens, on était dans un métier dans lequel on n'avait pas forcément besoin d'innover. Je pense que ce n'est plus le cas aujourd'hui. Tout le monde l'a compris, y compris les éditeurs de logiciels. Donc ça, je pense que c'est l'opportunité du siècle pour répondre à la crise. C'est cette collaboration permise désormais entre les startups et les éditeurs de logiciels. Et Vilogy en fait partie, puisque Vilogy, pour moi, est l'un des rares éditeurs de logiciels à avoir une API, c'est-à-dire une interface qui permet de se connecter facilement. Et ça, c'est une innovation, on peut le dire, parce que c'est une innovation dans le modèle économique, dans la façon de travailler, des éditeurs de logiciels.
Et un petit mot sur le recrutement. Le président d'école que je suis ne peut pas oublier ça.
Cette évolution.
Ça a été évoqué par Samuel tout à l'heure. L'attractivité de ces métiers, qui sont en tension, comme on dit, qui ont beaucoup de mal à trouver un gestionnaire de copropriété, un gestionnaire locatif, un loueur. Ces métiers-là gagnent en attractivité grâce au digital. Et les plus jeunes ou les moins jeunes, aujourd'hui, quand ils voient l'exercice du métier extrêmement digitalisé, facilité, devenu plus intelligent, eh bien, ils ont envie de faire ces métiers. Ça donne envie. Et la proportion de ceux qui vont vers ces métiers-là est en train de monter, je le dis, pas assez vite, à mon goût. Et je ne parle pas que de mon école, je parle des quelques écoles qui sont fournisseurs de talents. On est heureux de voir cette digitalisation, ces synergies entre les métiers. C'est vrai qu'un transactionnaire à qui on va dire, mais tu sais, tu as un apport en mandat grâce à tes camarades qui font de la gestion en copropriété, parce qu'ils savent quels sont les copropriétaires qui vont vendre et donc ils vont te le signaler, tu vas avoir l'information. Ben voilà, c'est une force extraordinaire, commerciale et culturelle, je dirais. Voilà.
Samuel, pour terminer, peut-être une petite conclusion, une petite réaction à ce qu'il y a.
Une réaction rapide. C'est vrai qu'on pourra en parler toute la journée. Je voulais rebondir sur les API. Bien évidemment, on a été depuis le départ le premier éditeur une bibliothèque, etc., assez riche. Et on est maintenant dans une phase 2 où notre ambition, c'est d'intégrer tous ceux qui ont déjà leur place dans le marché. Et c'est même nos clients maintenant. Il y a des clients qui me disent, moi, je veux venir chez toi, mais il faut que tu me branches un tel. Bon, c'est quelque chose d'important. Il y a aussi autre chose, c'est, Henri en a parlé tout à l'heure, c'est l'utilisation des data pour alimenter d'autres métiers. C'est pour ça qu'on ajoute des choses, non pas forcément, par exemple, on a mis une estimation de biens dans notre application de relations clients, c'est aucunement pour concurrencer ce loger et tous les mais, c'est simplement pour permettre, une fois que vous avez votre portefeuille, dire à vos clients, je peux faire ça aussi. Et c'est une manière pour nous d'accompagner nos clients dans le développement de leur portefeuille. Donc voilà un peu...
Voilà. Alors, pour terminer, peut-être une petite actualité pour Vilogy.
Les actualités de Vilogy, il y en a plusieurs. Il y a bien évidemment très bientôt le Salon Rent, où nous serons présents, et avant l'UNIS. Et nous sommes en train de préparer quelques innovations pour ça. Je vous ai parlé tout à l'heure des différents API qu'on est en train de mettre en place. On va bientôt apporter de nouvelles... Alors, l'actualité de Vilogy, j'ai pas le temps d'en parler. On a changé toute notre interface, entre autres à la demande de Jérôme.
Violette.
Voilà. Et je te laisserai le découvrir, qui est beaucoup plus moderne, donc on va quand même vite. Et on prépare quand même quelques innovations qu'on va plutôt annoncer, comme d'habitude, c'est que j'aime bien te faire des teasings, va annoncer plutôt vers septembre pour être plus présent auprès de nos clients et leur apporter plus de services et de technologies au quotidien.
Jérôme, vous qui êtes organisateur du Salon Rent, les dates du Salon Rent pour nos auditeurs?
C'est 8 et 9 novembre à la Porte de Versailles, toujours dans le hall d'exposition numéro 6, comme les années précédentes. Et c'est un peu petit cette année. Encore. On a quand même essayé de tout pousser, mais on est
encore...
Parce
que l'année dernière, déjà, c'était les 8 et 9 aussi, je crois, l'année dernière.
Ouais, c'est ça.
C'était les mêmes dates, je crois.
Ouais, c'est ça.
Concomitant du salon de la copropriété, qui est aussi un grand événement.
Qui est juste à côté.
Voilà, les organisateurs ont souhaité cette proximité. Et c'est les 10 ans de Reims, hein, je le rappelle, Jérôme l'a dit. Hein, donc il va y avoir des teufs, pas possible.
Et surtout, on va faire un événement sympa, et puis je vais avoir la chance d'animer une conférence sur les 10 ans, les tops et les flops, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qu'on a vu dans les 10 ans.
Ça va être assez sympa.
Et bien voilà, rendez-vous les 8 et 9 novembre à la Porte de Versailles, et évidemment Radio Immo vous fera vivre ces deux salons, le Rent et le salon de la CoPro d'ailleurs. Samuel, on se retrouve très bientôt pour un tout nouveau numéro du Coup de Boost. À très vite sur Radio Immo.
Le Coup de Boost, l'émission de la gestion immobilière digitale, coproduite par Vilogy, à réécouter et télécharger sur le site et l'appli radio.imo et Radio Territoria et sur toutes les plateformes de streaming.